L'esprit de la chambre de l'horloge. Esbas Stretton. Mon cousin John Herschel devint rouge comme une pivoine, puis pâle comme un mort, en disant qu'il ne pouvait nier que sa chambre n'eût été hantée et que l'esprit d'une femme l'avait envahi. Plusieurs voix lui ayant demandé si l'apparition avait pris une forme terrible ou hideuse, mon cousin mit le bras de sa femme sous le sien et répondit résolument « Non ». Lorsqu'on lui demanda si sa femme avait eu connaissance de l'esprit, il répondit « Oui ». S'il avait parlé « Oh mon Dieu, oui !» Et à la question « Qu'a-t-il dit ?», il répondit, en cherchant à s'excuser, qu'il aurait désiré que ce fût sa femme qui se chargeât de la réponse, attendu qu'elle s'en tirerait beaucoup mieux que lui. Cependant, comme elle lui avait fait promettre qu'il serait l'interprète de l'esprit et qu'elle souhaitait qu'il n'omît rien, il allait faire pour le mieux, se soumettant à ses corrections. « Supposons, dit mon cousin en se préparant à commencer, que l'esprit soit ma femme, qui est là, assise parmi nous. Je restai orpheline dès l'enfance, avec six belles sœurs plus âgées que moi. Je fus comprimée par un système d'éducation, appliqué longtemps et sans relâche, qui me donna une seconde nature, toute différente de ma première, et, en grandissant, je devins beaucoup plus la fille de ma sœur aînée Barbara que celle de mes parents décédés. Ma sœur, dans tous ses projets particuliers, aussi bien que dans ses décrets domestiques, décida inexorablement que toutes ses sœurs devaient se marier. Et sa seule et inflexible volonté avait été si puissante que chacune d'elles avait trouvé un parti avantageux, excepté moi, sur qui elle avait placé ses plus chères espérances. J'avais alors un caractère tel qu'on en voit beaucoup. J'étais une jeune fille insouciante et coquette, dont la vocation prononcée était de chercher et d'attraper un parti convenable. J'étais vive, assez jolie et tout juste assez romanesque pour être une compagne agréable pendant une ou deux heures de loisir et recevoir les assiduités banales d'un homme qui n'avait rien à faire. À peine y avait-il, dans le voisinage, un seul jeune homme avec lequel je n'eusse pas coqueté. J'avais consacré 7 ans d'apprentissage à ce métier et mon 25e anniversaire de naissance était passé sans que je fusse parvenu à mes fins. La patience de Barbara était à bout et elle me parla alors avec une netteté et une décision que, des deux côtés, nous avions toujours cherché à éviter, car sur certains sujets, il vaut mieux s'entendre en silence que d'exprimer son opinion. « Stella, me dit-elle solennellement, vous avez maintenant 25 ans et chacune de vos sœurs était maîtresse de maison avant d'avoir atteint cet âge et cependant, nulle d'elles n'avait vos avantages et vos talents. Mais, il faut que je vous le dise franchement, vos chances commencent à décliner et, à moins que vous ne fassiez quelques efforts, nos projets ne réussiront pas. J'ai remarqué une erreur dans laquelle vous êtes tombée et qui m'avait échappé jusqu'à présent. En outre de vos coquetteries trop ostensibles et sans discernement, qui servent de passe-temps aux jeunes gens et voilà tout, vous avez une très mauvaise manière de rire et de vous moquer de ceux qui commencent sérieusement à s'occuper de vous. Or, votre seule chance de vous marier dépend du moment où ils deviendront pressants. Alors, vous devez paraître timide, silencieuse, perdre votre gaieté et les éviter à demi, en semblant presque effrayée et très effarouchée de leur changement. Un peu de mélancolie mène beaucoup plus loin que la plus grande gaieté, car si un homme peut s'imaginer que vous pouvez vivre un seul instant sans lui, il ne vous accordera pas une seconde pensée. Je pourrais citer une demi-douzaine de partis avantageux que vous avez perdus en riant à un mauvais moment. Mortifier l'amour-propre d'un homme, Stella, c'est faire une blessure que vous ne pourrez jamais guérir. J'attendis une minute ou deux avant que de répondre, car la nature originelle que j'avais reçue de ma mère, que je n'avais pas connue, et qu'on avait étouffée, faisait naître dans mon cœur un sentiment tout nouveau. « Barbara, répondis-je timidement, parmi tous les hommes que j'ai rencontrés, il ne s'en est pas trouvé un que j'aurais pu distinguer et respecter, et j'ai presque honte de le dire, que j'aurais pu aimer. » « Je ne suis point étonnée que vous en ayez honte, » répondit Barbara. « À votre âge, vous ne pouvez pas vous attendre à devenir amoureuse comme une jeune fille de 17 ans. mais je vous dis définitivement et positivement qu'il faut vous marier et que ce que nous avons de mieux à faire pour cela, c'est de nous concerter. Ainsi, si vous vous décidez pour quelqu'un, je vous aiderai de tout mon pouvoir, et si vous voulez seulement diriger toutes vos pensées et toute votre intelligence vers ce but, vous ne sauriez manquer de réussir. Une fois que vous aurez fait votre choix, l'appui de la famille est tout à votre disposition. Je n'aime personne de ceux que je connais, repris-je avec humeur, et je n'ai aucune chance parmi ceux qui ne me connaissent pas. Aussi, je me décide à jeter les yeux sur M. Martin Fraser. Barbara accueillit cette annonce avec un mouvement de colère ironique. L'endroit où nous demeurions était un district populeux où l'on travaillait le fer et qui renfermait peu de familles de distinction et de haute noblesse, mais beaucoup dans une position semblable à la nôtre, ce qui formait une société agréable et hospitalière. Nos habitations étaient des maisons modernes et commodes, bâties à des distances convenables les unes des autres. Plusieurs, y compris la nôtre, étaient la propriété d'un vieillard infirme qui résidait dans le château de ses pères, le dernier des édifices à pignons du temps d'Élisabeth, qui s'éleva encore sur des champs vierges de charbon et de fer. M. Fraser et son fils, les derniers vestiges de l'aristocratie rurale du district, menaient une vie tout à fait isolée et évitaient toute relation avec leurs voisins, dont l'hospitalité et la gaieté ne trouvaient nulle réciprocité chez eux. Personne ne pouvait s'introduire dans leur intérieur, à moins que ce ne fût pour les affaires les plus urgentes et les plus importantes. Le vieillard était presque toujours alité, et on disait que le jeune homme était entièrement absorbé par des recherches scientifiques. Je ne m'étonnais pas d'avoir le mécontentement ironique de Barbara, mais il ne fit qu'affermir ma résolution, et la grande difficulté de l'entreprise lui donna un intérêt qui avait toujours manqué à mes autres poursuites. Je discutais obstinément avec Barbara jusqu'à ce que j'eusse obtenu son consentement. « Il faut, ma chère sœur, que vous écriviez au vieux M. Fraser. Ne parlez pas du jeune homme et dites que votre sœur cadette s'est mise à étudier l'astronomie et que, comme il possède le seul télescope qu'il y ait dans le pays, vous lui seriez infiniment obligé s'il consentait à le lui montrer. « Il n'y a qu'une chose qui puisse plaider en votre faveur, » dit Barbara en s'asseyant. « Ah, je suis humiliée de penser avec quelle ruse nous arrangerons notre affaire. » C'est extorquer une aimable invitation à M. Fraser pour la fille de son ancienne amie, Maria Horley. Ce fut donc par une soirée de février qu'accompagnée seulement par une vieille bonne, car Barbara n'avait pas été comprise dans l'invitation, je franchis pour la première fois le seuil de la maison de M. Martin Fraser. Un air de profonde paix régnait dans cette demeure. J'y entrai en éprouvant un vague malaise, ayant conscience de l'inutilité de notre tromperie. Ma compagne resta dans le vestibule, et pendant qu'on me conduisait à la bibliothèque, un sentiment de timidité s'empara de moi, et je fus au moment de me retirer. Mais, en me rappelant que j'étais mise avantageusement, je repris confiance et m'avançai en souriant dans la chambre. C'était une pièce basse et sombre, à panneaux de chêne, ayant de vieux meubles massifs qui, à la lumière vacillante du feu, projetaient des ombres profondes et bizarres. Près de la cheminée vers laquelle je m'avançais, à la place du reclus Martin Fraser, que je m'attendais à rencontrer, je vis une étrange petite fille, habillée comme une femme et qui en avait les manières et l'aplomb. « Je suis bien aise de vous voir, vous êtes la bienvenue !» dit-elle en s'avançant et en me tendant la main pour me conduire à un siège. Elle s'empara de la mienne avec cet empressement qui indique le désir de guider et de venir en aide, tout à fait en désaccord avec l'inertie et la timidité ordinaires aux enfants. Et après m'avoir placé dans un fauteuil près du feu, elle s'assit en face de moi. Je lui fis quelques remarques d'un air embarrassé, auxquelles elle répliqua « Et alors ?» Je l'observai furtivement en silence. Un énorme chien couchant était immobile à ses pieds, qui était posé sur l'animal et recouvert par les plis de sa longue robe. Il y avait une expression placide, un peu méditative sur ses traits mignons, augmentée par l'habitude particulière qu'elle avait de fermer les yeux, ce qui se voit rarement chez les enfants et ce qui leur donne l'apparence d'une statue. Il semblait qu'elle s'était retirée en elle-même et qu'elle était plongée dans une sorte de méditation solitaire qu'elle ne pouvait exprimer ni par des paroles ni par des regards. Je commençais à avoir peur de cette petite créature silencieuse, ressemblant à une sorcière, assise sans remuer et sans aucune apparence de respiration, à la lumière vacillante du feu. Et je fus très contente lorsque la porte s'ouvrit et que l'objet de ma recherche entra. Je le regardai avec curiosité, car je m'étais remise de ma frayeur de tromper. Cela m'amusait de penser combien il était loin de se douter du plan que nous avions formé à son égard. Jusque-là, les jeunes gens que j'avais rencontrés avaient eu une peur plus grande d'être attrapés que mon désir de les attraper. Ainsi, la lutte avait été égale et ouverte. Mais Martin Fraser ne connaissait rien des artifices des femmes. Lorsque je levai les yeux pour rencontrer son regard, je me souvins que mes cheveux châtains tombaient en boucles abondantes autour de ma figure et que mes yeux d'un bleu foncé passaient pour expressifs. Mais lorsqu'il m'adressa la parole avec un air de grave préoccupation et d'indifférence courtoise qui ne prouvait pas qu'il eût remarqué mes charmes, je tremblais de penser que tout ce que je savais d'astronomie était ce que j'avais appris en pension dans un livre intitulé « Question de Morgnal ». Cet homme, grave et austère, dit immédiatement « Mon père, M. Fraser, est obligé de garder constamment la chambre, mais il souhaite que vous lui fassiez la faveur d'une visite. C'est à moi qu'est réservé l'honneur de vous montrer ce que vous désirez voir à travers le télescope, et pendant que je l'ajusterai, voulez-vous avoir l'obligeance de vous entretenir avec lui quelques instants? Lucy Fraser vous accompagnera. » L'enfant se leva en me prenant la main avec fermeté pour me conduire dans le cabinet du vieillard. « Vous ressemblez à votre mère, mon enfant, » me dit-il après m'avoir contemplé longtemps. « Vous avez sa figure et ses yeux. Mais vous n'avez pas la moindre ressemblance avec votre sœur Barbara. Où avez-vous trouvé ce nom bizarre de Stella ?»« Mon père m'a donné ce nom qui était celui d'un de ses chevaux de chasse favoris, » répondis-je pour la première fois en disant simplement d'où mon nom était tiré. « Cela est bien de lui, » dit le vieillard en riant. « Je me rappelle ce cheval, je connaissais aussi bien votre père que je connais mon fils Martin. Vous avez vu mon fils, n'est-ce pas, mademoiselle? Et voici ma petite fille, mademoiselle Lucy Fraser, la dernière souche de ma vieille race, car mon fils n'est pas un homme à se marier et nous l'avons adoptée comme notre héritière. » Elle doit toujours garder son nom pour être la fondatrice d'une autre lignée de Fraser. L'enfant se tenait toujours pensive et les yeux baissés, comme si elle était déjà courbée, sous le poids des soucis et de la responsabilité qui pesait sur elle. Le vieillard continua à causer jusqu'au moment où nous entendîmes les sons profonds d'un orgue résonner à travers la maison. « Mon oncle est prêt à nous recevoir, » me dit l'enfant. Nous nous arrêtâmes à la porte de la bibliothèque. Je posai la main sur l'épaule de Lucy en la retenant pour écouter la merveilleuse musique de l'orgue. Elle était telle que je n'avais jamais rien entendu de pareil, rugissante et s'enflant comme les vagues incessantes de la mer. De temps en temps, il y avait une note plaintive qui semblait me percer le cœur d'une douleur inexprimable. Quand la musique eut cessé, je me tins silencieuse et subjuguée devant Martin Fraser. On avait porté le télescope au bout de la terrasse où rien ne pouvait intercepter notre vue et Lucy et moi nous suivîmes l'astronome. Nous nous arrêtâmes sur le point le plus élevé d'un plateau qui s'élevait presque imperceptiblement et dont l'horizon était borné à 30 ou 40 mètres de distance. Au-dessus de nous s'élevait l'immense dôme du ciel formant un océan de firmament dont les habitants des maisons et des montagnes ne peuvent avoir aucune idée. Ces multitudes d'étoiles étincelantes, la nuit sombre, enveloppant toute chose de son linceul, les voix de nos compagnons auxquelles je n'étais pas accoutumé, rendaient plus profondes les émotions qui m'oppressaient, et en me tenant au milieu d'eux, je devins aussi ardente et aussi occupée qu'eux-mêmes. J'oubliais toute chose, excepté l'incompréhensible grandeur de l'univers qui se révélait à moi et les majestueuses planètes que je voyais glisser dans l'espace au travers du télescope. Quelle fraîcheur d'émotion et de délices s'empara de moi! Quel flot de pensées vint, vague sur vague, traverser mon esprit! Et comme je me trouvais petite et misérable devant cette multitude de monde! Je demandais avec l'humilité d'une enfant, car toute affectation avait disparu comme par un charme, si je pourrais revenir bientôt. Le regard pénétrant et inquiétant de Martin Fraser rencontra mes yeux levés vers lui. Je ne reculais pas devant ce regard, car je ne pensais qu'aux étoiles. Pendant qu'il me regardait, sa bouche prit un sourire aimable et joyeux. « Nous serons toujours très heureux de vous recevoir, » répondit-il. Quand je revins à la maison, je trouvai Barbara qui veillait pour m'attendre. Elle allait m'adresser quelques remarques mondaines et spéculatives lorsque je l'interrompis vivement. « Pas un mot, Barbara, pas une question où je ne retournerai jamais au ou. » Je ne puis m'arrêter sur les détails, mais j'allais souvent à la maison. Lorsque j'arrivais, il me semblait que j'étais comme un rayon de soleil qui éclaircissait les nuages qui s'étaient élevés dans la triste vie uniforme de M. Fraser et de Lucie. J'apportais à tous les deux une saine distraction et de la gaieté, aussi je leur devins nécessaire et cher. Un grand changement, un changement incroyable s'opéra en moi. J'avais été égoïste, frivole, sans âme, mais l'étude solennelle que j'avais commencée et qui m'entraînait à d'autres études de même nature m'enleva à mon inertie et me porta à une vie d'activité morale. J'avais absolument oublié mon projet, car j'avais aperçu bientôt que Martin Fraser était aussi au-dessus de moi et aussi pondéré que l'étoile polaire. Aussi, je devins simplement avec lui une élève vigilante et insatiable. Et lui, qui était un maître grave et exigeant, dont je ne pouvais obtenir les bienveillantes faveurs que par la plus profonde déférence. Chaque fois que je franchissais le seuil de sa tranquille demeure, toute ma sagacité mondaine, la coquetterie de ma nature, tombaient de mon âme comme un vêtement peu convenable. Et j'entrais dans la maison comme dans un temple, avec une adoration simple et vraie. Cet heureux été s'écoula, l'automne arrivait insensiblement. Pendant 8 mois, j'avais eu des relations fréquentes avec les Fraser, et jamais je n'avais eu par mes paroles, mes regards ou mon ton, l'intention de les tromper. Lucie et moi avions souhaité pendant longtemps voir une éclipse de lune, phénomène qui devait se produire au commencement du mois d'octobre. Je quittais la maison toute seule pendant le crépuscule de cette soirée, rêvant déjà ce prochain plaisir, lorsque, tout juste en approchant des houes, un des jeunes gens avec lesquels j'avais fait la coquette autrefois me surprit et m'arrêta. « Bonsoir, Stella, » s'écria-t-il familièrement, « il y a longtemps que je ne vous ai vu. Oh, vous poursuivez un autre adorateur, je présume. Est-ce que vous ne levez pas les yeux trop haut cette fois ? Bien, vous avez du bonheur, car si M. Martin ne vous fait pas l'offre de sa main, s'il ne vous demande pas en mariage, il y a George York qui vient d'arriver d'Australie avec une immense fortune et il lui tarde de vous rappeler quelques-unes des tendres expressions que vous avez échangées avant son départ. Il nous montrait hier, après le dîner à la couronne, une mèche de vos cheveux. » J'écoutais ce discours sans aucune émotion apparente, mais la réelle humiliation de cet abaissement me rongeait le cœur et, en hâtant le pas vers mon sanctuaire, je cherchais ma petite Lucie. « J'ai mal fait aujourd'hui, » me dit-elle. « J'ai été trompeuse. Je crois que je dois vous le dire, afin que vous ne me croyiez pas meilleure que je ne suis. Mais, malgré cela, je veux que vous m'aimiez autant que jamais. Je n'ai pas dit en mensonge, mais j'ai menti en action. » Lucie Fraser appuyait son front mignon sur ses petits doigts et, les yeux fermés, elle semblait lire en elle-même. « Mon oncle, » dit-elle en relevant les yeux pour un moment et en devenant rouge comme une fraise, « prétend que les femmes sont peut-être moins véridiques que les hommes parce que, ne pouvant faire les choses par la force, elles les font par la ruse. Elles vivent avec fausseté, elles se trompent elles-mêmes. Quelquefois, les femmes trompent pour s'amuser. Il m'a enseigné quelques paroles que je comprendrai mieux un jour. Sois vrai avec toi-même et il s'en suivra aussi sûrement que la nuit suit le jour que tu ne pourras jamais être fausse avec un homme. » Je me tenais devant l'enfant, honteuse et muette, écoutant, les joues brûlantes. Mais grand-père m'a montré aussi un verset de la Bible qui m'a paru terrible. Écoutez, je trouve plus amère que la mort la femme dont le cœur ne renferme que pièges et filets et dont les mains sont comme des liens. Celui qui plaît à Dieu lui échappera, mais le pécheur sera pris par elle. » Je cachai ma figure dans mes mains, bien qu'il n'y eût aucun regard sur moi, car Lucie avait voilé ses yeux avec ses paupières tremblantes, et comme je me tenais confuse et m'accusant moi-même, je sentis une main se poser sur mon bras et la voix de Martin Fraser dire « L'éclipse, c'est là !» Je tressaillis en entendant pour la première fois prononcer mon nom par lui. Je fus complètement contrarié lorsque j'appris que Lucie ne devait pas nous accompagner sur la terrasse. Et comme Martin Fraser s'avançait pour voir si le télescope était bien apprêté pour moi, je me reculai. « Qu'est-ce que cela signifie, c'est là ? » s'écria-t-il, comme j'éclatais en sanglots. « Voulez-vous que je vous parle maintenant, c'est là, pendant qu'il est encore temps, avant que vous nous quittiez ? Est-ce que votre cœur s'est attaché à nous, comme nos cœurs se sont attachés à vous ? À ce point que nous n'osons pas penser au vide qu'il y aura chez nous quand vous serez partis. Nous n'avions pas vécu avant d'avoir fait votre connaissance. Vous êtes notre bien-être et notre vie. Je vous ai surveillé comme je n'ai jamais surveillé aucune femme et je ne trouve nulle imperfection en vous, ma perle, mon bijou, mon étoile. » Jusqu'ici, femme et tromperie ont toujours été inséparablement liées dans mon esprit. Mais votre cœur innocent est la demeure de la vérité. Je sais que tout ceci est nouveau pour vous et que mon ardeur vous alarme, mais dites-moi simplement si vous pouvez m'aimer. » Il m'avait prise dans ses bras et ma tête reposait sur son cœur qui palpitait fortement. Toute son austérité et sa sévérité étaient parties et il m'offrait la richesse intarissable d'une affection qui ne s'était pas étiolée dans des amours légères et faciles. Mon succès était complet et j'eusse été heureuse d'en rester là. Tout, jusqu'à mon silence, était éloquent. Mais ma sœur Barbara revenait à ma mémoire et les paroles de Lucie tintaient à mes oreilles. L'ombre noire qui envahissait le disque de la lune semblait s'arrêter dans son mouvement mesuré. Le ciel nous contemplait à travers ses solennelles étoiles. Le frôlement des feuilles ne s'entendait plus. La brise odoriférante de l'automne cessa de souffler pour un moment. Une nuée de témoins qui dévoilaient la vérité firent écho aux voix de ma conscience réveillée. Je me reculai, triste et honteuse. « Martin Fraser, lui dis-je, vos paroles me contraignent à dire la vérité. Je suis la femme la plus fausse que vous ayez jamais rencontrée. Je suis venue ici avec l'intention arrêtée de vous attirer à moi. Et si vous vous étiez jamais trouvé dans notre société, vous eussiez entendu parler de moi comme d'une coquette sans cœur. Je n'ose pas porter le mensonge dans votre foyer et l'amertume et la mort dans votre cœur. Ne me parlez pas maintenant, attendez et je vous écrirai. » Il eût voulu me retenir, mais je m'élançai hors de la maison. Courant avec précipitation dans l'avenue, je sortis de mon éden comme si j'eusse été frappé par la sentence du bannissement perpétuel. L'éclipse était à son plus haut point et une horreur de ténèbres et de frayeurs m'enveloppait. Comme je m'arrêtais toute frémissante en sanglotant sous les peupliers agités, Barbara me rencontra au moment où je rentrais et où je me hâtais de me cacher dans ma chambre et fixant sur moi son air interrogateur, ses yeux froids et brillants, elle me dit « Eh bien, ma sœur, qu'avez-vous ? » « Rien, répondis-je. Seulement, je suis fatiguée d'astronomie et je ne retournerai plus au château. C'est inutile. » « Je l'ai toujours dit, répondit-elle. Cependant, pour lui faire déclarer ses intentions, j'ai prévenu M. Fraser que nous quittions la maison à Noël. Ainsi donc, vous êtes convaincu que ce serait perdre votre temps inutilement que de continuer vos visites ?»« Tout à fait, lui dis-je. » Et j'entrai dans ma chambre pour apprendre pendant ces longues heures de la nuit à supporter une désolation sans espérance. Le lendemain, j'écrivais à M. Martin Fraser. Chaque mot contenait la sainte vérité, excepté que, me trompant moi-même et avec un faux orgueil même dans mon extrême humiliation, je lui disais que je ne l'avais jamais aimé et que je ne l'aimais pas. Le premier objet sur lequel mes yeux se reposaient à chaque triste matinée étaient les hauts peupliers qui se balançaient autour de sa maison en semblant me faire des signes d'appel qui me rendaient folle. La dernière chose que je voyais dans la soirée était la lumière immobile de sa bibliothèque. Cette lumière brillait comme une étoile parmi les lauriers. Mais lui, je ne le reverrai plus, car ma lettre avait été trop explicite pour qu'il lui restât une espérance, et je ne pouvais pas, par respect humain, essayer de le rencontrer dans ses promenades. Tout ce qui me restait à faire était de reprendre mon ancienne vie, si je pouvais, par n'importe quel moyen, nourrir mon âme affamée et défaillante avec le calme du néant qui, autrefois, m'avait suffi. George York me renouvela sa demande en m'offrant des richesses bien au-delà de nos espérances. C'était une grande tentation, car devant moi s'ouvrait une vie maussade et monotone avec Barbara et une vieillesse solitaire dont personne ne se soucierait. Pourquoi ne pouvais-je pas vivre comme des milliers d'autres femmes qui ne se trouvent pas malheureuses? Mais je me souvenais d'un passage que j'avais lu dans un livre qui appartenait à Martin. Ce n'est pas toujours notre devoir de nous marier, mais c'est toujours notre devoir de faire ce qui est juste et bien. Nous ne devons pas acheter le bonheur par la perte de l'honneur, ni éviter le célibat en manquant de sincérité. Et prenant la résolution de supporter la stérilité et la tristesse de ma destinée, je repoussai cette proposition. Barbara était horriblement exaspérée. Nous étions toutes les deux fort tristes avant qu'elle acceptât une invitation de l'une de ses sœurs pour aller passer les fêtes de Noël avec elle. Pendant ce temps, je devais rester à la maison avec ma vieille bonne pour surveiller le déménagement. Je désirais rester dans cette demeure, longtemps habitée par nous, jusqu'au dernier moment. J'étais heureuse de me trouver seule le jour de Noël dans la maison abandonnée, afin de pouvoir graver dans ma mémoire, avant de la quitter, tous les souvenirs qui s'y rattachaient. La veille de Noël, donc, je parcourus les chambres vides, mais non pas si vides que mon cœur, qui commençait à se voir privé de ses souvenirs d'autrefois et de sa tendresse plus nouvelle, mais plus profonde. Je m'arrêtai machinalement devant la fenêtre d'où j'avais si souvent contemplé la propriété des houes. Toute la journée, le temps avait été lourd et sombre. La neige était tombée à gros flocons. Mais le mauvais temps était passé et l'on apercevait au ciel de brillantes étoiles, quoiqu'il n'y eût pas de lune. La neige étincelante jetait un reflet assez lumineux pour m'indiquer la maison de Martin Fraser, qui se dessinait comme une sombre masse dans le ciel clair. La chambre, comme pendant plusieurs nuits précédentes, n'était point éclairée, mais les fenêtres du vieux monsieur Fraser, qui étaient plus rapprochées de nous, projetaient une brillante lumière sur la pelouse blanche. J'étais épuisé de fatigue, d'émotion, et restant là, j'appuyai mes joues brûlantes contre les vitres gelées, en me racontant à moi-même toutes les circonstances de mes relations avec eux, et alors se succédèrent dans mon esprit, tableau sur tableau, rêve sur rêve, des visions de bonheur qui auraient pu être le mien. Pendant que je me tenais ainsi, mes larmes coulaient à travers mes mains serrées qui cachaient mes yeux. Ma bonne entra pour fermer les volets. Elle tressaillit avec un mouvement nerveux quand elle me vit. « Je vous ai prise pour votre mère, » s'écria-t-elle. « Je l'ai vue se tenir ainsi des centaines de fois. » « Suzanne, comment se fait-il que ma mère n'ait pas épousé M. Fraser ?»« Ils étaient comme beaucoup d'autres jeunes gens, ils ne s'entendaient pas, bien qu'ils fussent excessivement amoureux l'un de l'autre, » répondit-elle. M. Fraser, en première noce, s'était marié pour de l'argent, et cela ne fut point un mariage heureux, ce qui lui avait aigri le caractère. Votre mère, dont le cœur avait été cruellement blessé, épousa par dépit M. Gretton, votre père. M. Fraser devint vieux prématurément. À peine quittait-il sa chambre, de sorte qu'elle ne le revit jamais. Quand votre père allait au bal, aux courses de chevaux, ou dans toute autre réunion publique, j'ai souvent vu votre mère se tenir ici, justement comme vous vous tenez maintenant. Seulement, la dernière fois qu'elle vous porta dans ses bras, en s'appuyant contre cette fenêtre, je vous avais amené pour lui dire bonsoir. Elle vous souriait tout doucement, en levant les yeux au ciel, et murmurait « J'ai essayé de faire mon devoir envers mon mari et mon enfant. « Ma bonne Suzanne, lui dis-je, laissez-moi seule, ne fermez pas encore la fenêtre. » Ce n'était plus seulement une émotion égoïste qui s'était emparée de moi. Je venais de murmurer qu'il n'y avait point de chagrin comparable au mien. Mais la douleur de ma mère avait été plus poignante encore et ses épreuves plus dures que les miennes. Le fardeau qu'elle avait porté l'avait accablée et conduite dans la tombe prématurément. Mais cette douleur n'avait point quitté la terre avec elle, elle s'était augmentée par sa mort et opérée sur le cœur de ce vieillard qui, sans doute, dans ses heures de méditation, passait en revue l'ancien temps et faisait revivre les événements de sa vie et celui-là en particulier parce qu'il était le plus triste. Je désirais ardemment de revoir encore une fois l'homme qui avait pleuré la mort de ma mère avec le plus d'amertume et plus longtemps qu'aucune autre personne au monde. Je pris la résolution de traverser furtivement les champs, de monter l'avenue, et si les rideaux de sa fenêtre n'étaient pas tirés, comme la clarté me le faisait supposer, de le contempler encore une fois en souvenir de ma mère. J'hésitais sur le seuil de notre porte, comme si ma mère et moi nous allions faire quelques démarches indiscrètes. Mais avec la hardiesse de ma nature, je chassai tout scrupule et m'aventurai au milieu de cette nuit glaciale. Il n'y avait point de rideaux à la fenêtre. Je voyais bien cela depuis la grille de l'avenue. J'allais voir celui que ma mère avait aimé, j'allais le contempler, solitaire et triste sur sa couche, comme il passera maintenant tous ses jours décolorés, jusqu'à ce que Lucie soit d'âge à être une fille pour lui. Mais alors, je me souvins d'avoir entendu courir le bruit que la petite fille du vieillard se mourait et que Suzanne me l'avait répété tristement, il n'y avait qu'un instant. Je devins de plus en plus bouleversé et courus précipitamment jusqu'à ce que je fusse devant la fenêtre. Ce n'était plus la chambre d'un malade, le lit et le paravent avaient été enlevés, ainsi que la petite chaise de Lucie. On n'apercevait plus aucun de ces objets brillants, somptueux, qui indiquent et le luxe et la mollesse moderne. C'était tout simplement la bibliothèque et le cabinet de travail d'un étudiant occupé qui n'avait nul souci du confortable. Cependant, telle qu'était cette pièce, je la reconnaissais pour être habitée par lui. Martin était là, assis, profondément enfoncé, comme c'était sa coutume, dans des calculs compliqués et faisant de fréquentes recherches dans les livres qui étaient éparpillés autour de lui. Était-il bien possible que cet homme absorbé, assis maintenant au milieu de la chaleur, de la lumière et de l'indifférence, presque à la portée de ma main, fut le même qui m'avait parlé d'amour jadis avec tant de passion, tandis que moi, comme une proscrite, je me tenais dehors dans le froid, dans les ténèbres et dans le désespoir. Nul écho de mes pas ne résonnait donc sur le seuil. Nul souvenir fantastique de ma personne ne venait donc se placer entre lui et ses études. J'avais renoncé au droit de m'asseoir à ses côtés, de lire les remarques que notait son crayon et de chasser la tristesse qui assombrissait sa nature. Je n'avais pas l'espérance, ce qui eût été pour moi une véritable consolation, qu'une autre femme plus sincère, plus digne, pourrait un jour ou l'autre avoir ce droit auquel j'avais renoncé. J'entendis le tintement d'une sonnette et je vis Martin s'élancer hors de la chambre. Je me demandais si je n'aurais pas le temps de me glisser dans cette chambre pour m'emparer d'un petit morceau de papier qu'il avait jeté de côté avec insouciance, mais comme je tenais en tremblant le bouton de la porte vitrée, il revint, portant dans ses bras le corps amaigri de la petite Lucie Fraser. Il avait enveloppé soigneusement d'un grand manteau, et pendant qu'il roulait près du feu un fauteuil où il la déposa, chacun de ses traits sévères s'adoucissait et devenait doux et tendre. J'étendis mes bras vers lui avec le désir ardent d'être serré encore une fois contre son noble cœur afin de pouvoir dissiper cette froideur et cette tristesse. Je m'en allais avec sa chère image, plus tendre et plus adoucie, gravée dans mon souvenir, et dirigeai mes pas vers ma demeure isolée. Tout à coup, j'entendis un gazouillement dans le lierre au-dessus de ma tête et un petit oiseau chassé de son nid, dans l'air froid de la nuit, vint en agitant ses ailes, volter contre les vitres illuminées. Un instant après, le chien de Martin, qui avait déjà été inquiet à mon approche, se tenait à la fenêtre en aboyant. J'avais eu à peine le temps de m'échapper et de me cacher dans les arbustes quand Martin ouvrit la porte et sortit sur la terrasse. Le chien suivit le sentier par lequel j'étais venu en jappant joyeusement. Pendant qu'il bondissait dans l'allée et que Martin regardait autour de lui, je me blottis dans les ténèbres les plus profondes. Je savais bien qu'il me trouverait, car mes pieds étaient empreints très visiblement sur la neige récemment tombée. Un sentiment extravagant de honte et de bonheur m'envahit. Je vis qu'il perdit plusieurs fois la trace de mes pieds, mais enfin il les retrouva et, soulevant les branches sur lesquelles je m'étais caché, il m'aperçut parmi les lauriers. J'étais blotti et il s'arrêta et me regarda avec curiosité. « C'est Stella !» dis-je d'une voix faible. « Stella ? » répéta-t-il. Il me releva de terre comme une enfant égarée qui l'eût attendu au logis à chaque heure et me porta en traversant la terrasse dans la bibliothèque. Il me mit par terre à la lumière et à la chaleur du foyer. Il donna un baiser à l'enfant dont les yeux brillaient d'un étrange éclat en nous regardant. Puis, en prenant mes deux mains dans les siennes, il se baissa pour lire ma pensée dans mes yeux. Je supportais son regard sans me détourner. Les yeux dans les yeux, nous sondâmes les profondeurs du cœur l'un de l'autre pendant ce long et fixe regard. Désormais, il ne pouvait plus y avoir de doute ni de méfiance entre nous. Il ne pouvait plus exister de déception ni de mauvaise entente. Notre étoile s'était levée et, dans tout son plein, elle répandait une douce et brillante lumière sur les années à venir. Carillon sur carillon nous arrivait du lointain à travers la neige comme le carillon du mariage de nos âmes et interrompit notre rêve. « Je pensais que je vous avais perdu pour toujours, » me disait Martin. « Cependant, je cherchais à me persuader quelquefois que vous me reviendriez, mais ce soir, j'avais entendu dire que vous étiez parti et je le répétais il n'y a pas longtemps à Lucie. Elle languissait du désir de vous revoir. » Il me permit alors de prendre l'enfant sur mes genoux. Elle me caressait en mettant ses bras autour de mon cou et sa tête sur mon cœur, et je la sentis soupirer faiblement. En ce moment, nous entendîmes le chant de Noël qui retentissait dans l'avenue. Martin tira les rideaux de la fenêtre devant laquelle les chanteurs s'étaient placés en racontant la légende miraculeuse de l'étoile d'Orient. Quand ils eurent fini leur Noël et qu'ils eurent souhaité un Noël joyeux et une bonne année, Martin sortit sur le porche pour leur parler. Moi, je cachai mes joues dans la chevelure de l'enfant en remerciant Dieu qui m'avait si complètement changé le cœur. « Mais qu'est-ce qu'il y a donc, Martin ? » m'écriai-je avec terreur en relevant la tête à son retour. Les yeux baissés de l'enfant étaient fortement fermés et sa petite main nerveuse était devenue aussi flasque et inerte. Insensible et sans souffle, elle reposait dans mes bras comme une fleur flétrie. « Elle n'est qu'évanouie, » dit Martin. « Elle a été languissante depuis le moment où vous nous avez quittés, Stella. Ma seule espérance de la voir se remettre est dans vos bons soins. » Je restai toute la nuit assise avec l'enfant qui reposait sur mon sein. Elle s'était remise de son évanouissement qui avait toute l'apparence de la mort et elle dormait avec calme parce qu'elle commençait déjà à partager la vie, la joie et le bonheur de mon cœur. Nous éprouvions cette tranquille félicité que nul langage humain ne peut exprimer, sorte d'oasis de l'âme. Cette douce jouissance fut interrompue par l'arrivée de ma nourrice que Martin avait trouvée dans la plus grande perplexité. L'aube de l'heureuse matinée de Noël arriva. Je priai Suzanne de me coiffer comme ma mère se coiffait et, lorsqu'après une longue conversation avec Suzanne, M. Fraser m'accueillit comme sa fille, il était profondément ému et m'appela Marianne plus souvent que Stella. J'étais enchantée d'être ainsi identifiée avec ma mère. En me voyant assise ce soir-là au milieu d'eux, un tremblement me saisit, je pleurai abondamment, et il n'y eut que les assurances les plus tendres qui purent me calmer. Je me rassurai enfin et je chantai même quelques vieilles romances qui n'avaient que le charme d'une simple mélodie. M. Fraser parla ouvertement des années écoulées et des années à venir et les yeux de Lucie étaient presque riants. Puis Martin me reconduisit chez moi par le sentier familier que si souvent j'avais parcouru seul sans frayeur. Mais l'excès du bonheur me rendait timide. Au moindre bruit, je me pressai contre lui avec le doux et fier sentiment d'être sous sa protection. Un beau jour de printemps, ayant la gaie Lucie et la triomphante et doctorale Barbara pour demoiselle d'honneur, j'acceptai joyeusement et humblement l'heureuse destinée d'être la femme de Martin Fraser, abjurant toutes les folies et les extravagances de ma jeunesse. J'étais sûre d'accomplir mes devoirs avec affection, gratitude et dévouement. Nous ne pouvions douter l'un de l'autre, seulement d'abord Martin prétendit ne pas croire que, cette fameuse nuit, je n'étais pas sortie uniquement pour donner un dernier regard à son père. Et quant à moi, je n'ai jamais compris comment la chambre de M. Fraser s'était changée en cabinet d'études de son fils.